Ce soir, on découvre la vraie histoire derrière le classique Disney « La Petite Sirène », qui ne finit pas forcément aussi mal que ce que vous pourriez avoir entendu. La créature du soir est un cheval très communautariste. Vous écoutez Contes des Soirs Perdus, l'émission qui vous fait découvrir les contes et mythes que vous ne connaissiez pas encore et vous replonge dans ceux que vous aviez peut-être oubliés. Ceci est l'épisode 54, La Petite Sirène. Avant de commencer, une précision. Le conte d'Andersen se nomme à l'origine La Petite Ondine. Les sirènes appartiennent au folklore grec et, si elles sont liées à la mer, elles vivent sur des rochers et ont un corps d'oiseau. La créature à queue de poisson dont parle notre histoire est une ondine, du folklore germanique, et elle vivait traditionnellement dans le Rhin plutôt qu'en pleine mer. Dans cet épisode, j'utiliserai donc le terme ondine. En mer, là où l'eau est aussi claire que le cristal, aussi bleue qu'un ciel d'été, et là où ses tréfonds sont si loin sous la surface qu'aucune ancre ne peut les atteindre, là se trouve un pays qu'aucun humain n'a jamais exploré. Loin, très loin dans les immensités marines, les poissons se meuvent par milliers en nuages multicolores. Les algues sombres font des forêts plus denses que celles que l'on connaît à la surface. Et sur le fond de sable clair se dresse un immense palais de nacre et de corail jaune. Ces tours s'hérissent dans toutes les directions, bien plus haut que n'importe quel monument fait de la main de l'homme. Chacune, en son sommet, est ornée d'une huître gigantesque, qui s'ouvre et se ferme au gré des courants. Et c'est là le ravissement le plus incroyable de ce palais, car elle garde en leur sein des perles si parfaites qu'une seule ferait la fierté d'une reine. En ce palais vivait le roi de la mer. Sa femme avait quitté ce monde depuis bien longtemps, et c'était sa mère qui élevait avec lui ses 6 petites filles. Aucune princesse de la surface n'aurait pu rivaliser en beauté avec celle-ci, et la plus jeune, avec sa peau plus pâle que l'aube et ses lèvres pleines et roses, était la plus belle d'entre toutes. Leurs journées s'épuisaient en jeux de toutes sortes dans les fonds marins. Mais les moments qu'elles attendaient le plus étaient ceux où leur grand-mère leur parlait de la surface. La vieille Ondine leur racontait des histoires étranges et fascinantes. D'après elle, là-haut, les poissons nageaient dans l'air, et les gens avaient 2 sortes de bâtons qui leur servaient à marcher plutôt qu'une queue pour nager. Plus incroyable encore, chaque plante, chaque animal, chaque lieu avait son odeur. Mais la grand-mère avait beau tenter de leur expliquer, les enfants n'arrivaient pas à bien comprendre ce dont il pouvait s'agir, et chacune imaginait quelque chose de différent. À l'arrière du palais, un grand jardin était réservé aux princesses. Le sable était d'un bleu de soufre enflammé, et les jeunes ondines pouvaient y planter tout ce qu'elles désiraient. L'une avait arrangé ses plantes pour qu'elles prennent la forme d'une baleine. Une autre avait reproduit la forme souple et gracieuse de leur grand-mère. Mais la plus jeune n'avait dans son parterre rien de tout ça. Elle n'avait planté qu'un saule pleureur aux feuilles rouges sang. Ses branches pendaient jusqu'à toucher le sable et formaient en leur sein un petit sanctuaire où trônait la statue en marbre blanc d'un beau jeune homme. La petite Ondine l'avait trouvé après un naufrage. Souvent, elle s'imaginait avoir des jambes elle aussi et danser là-haut en compagnie de ce beau prince. Toutes les petites princesses étaient fascinées par le monde d'en haut, et dans chaque parterre, on trouvait diverses trouvailles rassemblées après des naufrages. Lorsque la tempête grondait, les princesses nageaient sous les navires, chantant pour rassurer les marins, leur conter les merveilles du monde sous-marin et les inviter à les rejoindre. Elles faisaient cela loin sous la surface, car elles étaient trop jeunes pour émerger à l'air frais, et les marins ne semblaient pas les entendre. Paniqués, ils tombaient à l'eau, et n'arrivaient jamais que morts dans les terres du roi de la mer. Un jour, la plus âgée des princesses eut 15 ans, et le droit de nager jusqu'à la surface. Quand elle revint, bien après le coucher du soleil, ses sœurs l'assaillirent de questions sur ce qu'elle avait préféré. Elle évoqua bien des choses qui firent rêver ses cadettes, mais par-dessus tout, elle avait aimé s'étendre sur un banc de sable dans la lueur de la lune. Au loin, la ville étincelait comme des milliers d'étoiles, et son fracas l'enivrait. La musique, les voix, le chaos des calèches, tout ce vacarme laissait deviner l'ivresse qui devait saisir les hommes à la nuit tombée. Cette nuit-là, la petite Ondine resta longtemps à sa fenêtre, le regard perdu vers la surface. Les étoiles étaient certes moins brillantes sous la mer, mais la petite Ondine ne le savait pas, et elle paraissait plus grande. Parfois, une ombre les cachait, lorsqu'une baleine ou un vaisseau glissait au-dessus du palais. Mais aucun marin ne se doutait qu'une petite Ondine les observait, loin sous la surface, en s'imaginant entendre leurs cris, leur musique. L'année suivante, la seconde sœur eut 15 ans, et ce fut son tour de découvrir ce pays enchanté. À son retour, elle raconta à ses sœurs le ravissement qu'était le soleil. Il plongeait dans la mer au moment où elle émergeait, et elle vit le ciel s'embraser de couleurs qu'elle n'aurait jamais imaginées. Quand son tour fut venu, sa cadette, plus téméraire, rapporta des histoires d'eau douce, de prairies en fleurs et de champs de blé. La suivante était née en hiver, et là-haut, elle vit d'immenses icebergs, dérivés comme autant de perles à la surface devenue verte. La cinquième resta loin des terres, mais décrivit la beauté des navires vus de la surface. Leurs voiles étaient comme de gigantesques goélands qui prenaient leur envol. Voilà ce que racontaient les jeunes princesses lorsqu'elles revenaient de leurs expéditions à la surface. Pour chacune, ce qu'elles avaient vu était ce qu'il y avait de plus beau au monde. Mais une fois qu'elles avaient la permission de nager jusqu'à la surface, elles s'en lassaient vite. Et après un mois, contemplant le palais de leur père, leur merveilleux jardin, elles finissaient par dire que c'était cela, ce qu'il y avait de plus beau. Finalement, la petite Ondine eut elle aussi 15 ans. Lorsqu'elle atteignit la surface, le soleil venait de se coucher, mais les nuages brillaient encore d'un feu rose et doré. Au loin, un navire voguait paisiblement, toutes ses voiles repliées, car il n'y avait pas de vent. L'Ondine nagea jusque-là, et pour la première fois, ses oreilles perçurent pleinement la musique des hommes. Dans le royaume de son père, on avait toujours loué sa voix, qui, même selon les poissons, était le plus beau trésor de la mer. Mais les chants des hommes étaient différents, plus vifs, plus joyeux. Des instruments qu'elle n'avait jamais entendus les accompagnaient. Timidement, la petite Ondine s'approcha jusqu'à pouvoir presque toucher la coque. Tranquille, les vagues la soulevaient paisiblement, et par moments, elle pouvait apercevoir les marins danser et trinquer. C'était l'anniversaire de leur prince, et ils étaient décidés à le fêter comme il se devait. La nuit tomba complètement, et des fusées explosèrent dans le ciel. Les détonations effrayaient la petite Ondine, qui plongeait sous les flots, mais elle refaisait surface rapidement, et avait alors l'impression que les étoiles pleuvaient sur elle. C'est dans l'éclat rouge d'une fusée qu'elle vit le prince pour la première fois. Il devait avoir son âge, peut-être un peu plus. Il dansait et riait, ses cheveux noirs flottant dans le vent naissant. Tout à leur célébration, les hommes n'avaient pas remarqué qu'il s'était levé. Les vagues grossirent, et l'unique voile se gonfla. Dans le ciel, les étoiles avaient disparu. Lentement, mais sûrement, le navire prenait de la vitesse. Finalement, le roulis fut trop fort pour être ignoré. La musique s'interrompit, des cris retentirent, et chacun eut l'air de regagner un poste qu'il connaissait bien. Des hommes mieux habillés entraînèrent le prince, et la petite Ondine ne le vit plus. Même dans la nuit, on pouvait deviner les sombres nuages désormais. Le tonnerre frappa une première fois, illumina la mer maintenant déchaînée. Les vagues gonflaient leur dos, et l'eau envahissait le pont à chaque rouleau. Le timonier avait perdu tout contrôle, car la barre avait été arrachée par une lame particulièrement vicieuse. Puis finalement, arriva ce qui devait arriver. La mer projeta violemment le navire sur des rochers. Ils éventrèrent la coque et jetèrent les marins à l'eau. La petite Ondine plongea pour éviter les débris. Le grand mât s'enfonça juste à côté d'elle. Un instant, il l'entraîna dans son sillage, mais elle avait une queue puissante et nagea sans peine vers la surface. Les marins n'eurent pas cette chance. Par dizaines, ils se mirent en route vers le royaume de son père. Dans le chaos, la petite Ondine aperçut le prince. Il suivait le même chemin que les autres. Son cœur se serra de bonheur un instant. Elle allait pouvoir lui parler, chanter et danser avec lui peut-être. Mais elle se rappela alors que les hommes ne pouvaient survivre dans son monde. Elle s'élança et ramena le prince à la surface. Il respirait encore, mais à peine. Bravement, la petite Ondine nagea vers la terre. Quand enfin elle atteignit une plage, malgré la violence des courants, le jour se levait. Elle déposa le prince sur la berge et veilla tendrement sur lui. Le soleil montait dans le ciel sans qu'elle ne s'en aperçoive. Le prince commençait à s'éveiller. Soudain, un son retentit. Sur un promontoire qui domina la mer, s'élevait un couvent dont les cloches sonnaient à tout va. Le son terrifia la petite Ondine, et elle se précipita à l'eau. Mais de loin, cachée parmi les rochers, elle observait son prince. Un groupe de jeunes filles arriva alors sur la plage. Quand elles remarquèrent le jeune homme, l'une d'elles se précipita vers lui. La petite Ondine le vit s'éveiller, se tourner et sourire à tout le monde. Mais vers le large, vers elle, il ne se tourna pas. Il ne soupçonnait même pas que, depuis la mer, sa sauveuse l'observait tristement. Le prince partit avec les sœurs, et l'Ondine s'enfonça dans la mer. Elle était timide auparavant. Elle devint taciturne. Chaque jour, elle remontait à la surface, vers la plage où elle avait déposé le prince. Elle vit les arbres en fleurs, et elle les vit porter des fruits. Elle vit les gens les cueillir, puis la neige recouvrir les branches nues et fondre pour découvrir les bourgeons. Mais jamais elle ne revit le prince. Dans le palais au fond de la mer, elle était inconsolable. Elle passait son temps à enlacer la statue de marbre, qui jamais ne lui rendrait son étreinte. Un jour, elle se confia à l'une de ses sœurs, et bientôt, les autres furent au courant. Elles gardèrent le secret comme les gardent les jeunes filles, et le mot parvint jusqu'à une Ondine qui, elle aussi, était à la surface le jour de la tempête. Elle connaissait le prince, savait en quel pays se trouvait son palais. Les sœurs, pensant soulager leur Benjamin, l'entraînèrent à la surface, là où le palais du prince surplombait la mer. Ses pierres jaunes resplendissaient dans le soleil couchant, et un escalier de marbre descendait directement jusqu'à la mer. Les sœurs laissèrent la petite Ondine seule, et cette dernière s'avança jusqu'au bord des escaliers. Son prince était là, se pensant seul dans le crépuscule. Elle observa longtemps, continuant à chérir l'endroit où il s'était tenu, bien après qu'il soit parti. De ce jour, elle remonta chaque matin dans la baie du palais. Elle n'avait plus goût aux délices de la mer, mais plus le soleil la réchauffait, plus elle se sentait attirée par la terre et la vie des hommes.
« Les humains vivent-ils aussi longtemps que nous ?»
demanda-t-elle un jour à sa grand-mère.
« Non, les humains sont bien plus éphémères que nous. Mais lorsqu'une Ondine meurt, elle se transforme en écume et cesse d'exister. Il paraît que les humains ont une âme immortelle qui survit après leur passage sur Terre. »
La petite Ondine fut outrée de cette idée.
« N'y a-t-il aucun moyen pour une Ondine d'obtenir une âme immortelle ?»«
Pas vraiment. Si un homme confesse son amour pour une Ondine, fait d'elle le plus beau trésor de sa vie, alors elle obtiendra une âme. Mais comment cela serait-il ? Les humains ne peuvent pas vivre sous l'eau. »
De ce jour, la petite Ondine vit son chagrin redoubler. Elle ne vivrait jamais avec son prince, mais en plus, une fois morte, elle deviendrait écume, et les souvenirs de son amour seraient perdus. La peine l'aurait fait pleurer si elle avait pu. Mais les ondines ne pleurent pas, et sa tristesse n'en était que plus grande. Finalement, elle décida d'aller voir la sorcière des mers. La sorcière vivait au bord d'un gouffre, où les eaux tournoyaient dans un vacarme terrible, et engloutissaient tout ce qui s'approchait. Il fallut toute la force de sa queue à la petite ondine pour ne pas être emportée. De l'autre côté, attendait une forêt de polypes, dont les longs doigts visqueux agrippaient tout ce qu'ils pouvaient voler au gouffre. Bien des doigts se refermaient sur les squelettes blanchis d'humains qui avaient fait naufrage. La petite ondine traversa la forêt la peur au ventre, avant de finalement arriver à la cabane de la sorcière. Elle était entièrement faite d'os.
« Je sais ce que tu veux, petite princesse, » fit une voix quand elle entra. « C'est stupide, mais ta volonté sera faite, car elle causera ton malheur. »«
Vous allez vraiment m'aider ?»«
Bien sûr. Deux moignons pour marcher, à la place de ta belle queue. Mais je te préviens, ce sera douloureux, et pas gratuit. »
Mais la petite ondine n'entendait pas les avertissements. Elle accepta de payer tout ce que la sorcière voudrait.
« Eh bien, je prendrai ta voix, car c'est la plus belle chose en ce monde sous-marin. Mais je te préviens une dernière fois. Si ton prince confesse son amour à une autre, tu mourras. Il n'y a pas de retour en arrière une fois le contrat accepté. »
La petite ondine se sentait la tête légère. Bientôt, elle serait en compagnie de son prince. Qu'était la douleur ou le mutisme ? Elle acquiesça. La sorcière brandit alors une lame de corail et trancha la langue de la petite ondine.
Ton sang a scellé le contrat. Va maintenant, va à la surface. Tu n'as plus beaucoup de temps.
La petite ondine aurait voulu hurler de douleur, mais elle ne le pouvait plus. Elle avait l'impression qu'une lame chauffée à blanc lui tranchait la queue. Elle nagea aussi vite qu'elle put vers la surface, vers son prince. Au moment où elle émergeait des eaux, sur le blanc escalier de marbre, la douleur s'apaisa. Et elle vit qu'elle avait désormais deux petites jambes à la place de sa queue. Elle voulut se lever, mais retomba aussitôt. Elle avait l'impression de marcher sur des poignards. Désorientée, paniquée, elle resta là, seule au monde. Quand le soleil plongea dans la mer, elle entendit des bruits de pas. Sa souffrance, sa détresse disparurent d'un coup. Le prince, son prince, se précipitait vers elle. Pour la première fois, elle réalisa que les ondines ne portaient pas de vêtements comme les humains. Elle laissa glisser ses cheveux sur sa poitrine pour se couvrir et sourit au prince, qui l'assaillait de questions. Son inquiétude fit plaisir à l'ondine, mais elle ne put le lui dire. Elle ne put lui dire non plus que c'était elle qui l'avait sauvée autrefois. Finalement, le prince, confus, la recueillit comme un petit animal blessé. Quand il lui tendit la main, elle la prit et monta avec lui le long d'escalier. Marcher lui faisait toujours aussi mal, mais elle supportait la douleur pour être à ses côtés. À nouveau, les saisons passèrent. Le prince s'attacha à la petite ondine. Il passait tous ses moments libres avec elle, lui confessait ses craintes, ses troubles, ses joies. Et la petite ondine écoutait, si heureuse d'être près de son aimé. Mais jamais il ne lui confessait son amour. S'il la prenait souvent dans ses bras, jamais il ne l'embrassait. Comme au premier jour, le prince l'aimait, comme un petit animal dont il s'occupait. Lorsque le prince était pris ailleurs, la petite ondine restait seule. Le reste de la cour la méprisait, trouvait indécente l'affection du prince. La douleur et l'angoisse seules lui tenaient compagnie. Dès que son aimé franchissait la porte, dès qu'ils se promenaient ensemble, elle oubliait tout, mais ressombrait dès qu'il partait. Un jour, le prince vint la rejoindre dans les jardins. Il avait l'air soucieux. « Mon père trouve qu'il est grand temps que je me marie. Il a arrangé une rencontre avec la princesse d'un lointain royaume, mais il se fourvoie. Je ne l'ai dit à personne, mais je te le dirai à toi. J'en aime une autre. Je ne me souviens presque pas d'elle. Et cette jeune fille m'a sauvé d'un naufrage un jour. C'est elle que j'aime, et c'est la seule fille que je veuille épouser. Mais je ne la retrouverai jamais. Je dois faire ce voyage, mais je refuserai la main de cette princesse. Si je dois me marier, je préfère que ce soit avec toi, qui ressemble à celle qui m'a sauvé. » Et il déposa un baiser sur ses lèvres. La petite Ondine était folle de joie. Pour la première fois, des larmes de bonheur voulurent couler de ses yeux. Mais ils restèrent secs. Le prince prit la mer et emmena la petite Ondine avec lui. Il était d'humeur maussade le jour où ils débarquèrent. Rencontrer une jeune fille qu'il s'apprêtait à conduire l'embarrassait. Il rentra dans le palais avec des yeux boudeurs. Mais la petite Ondine, qui n'avait, comme d'habitude, Dieu que pour lui, les vit s'ouvrir en une fois, émerveillée.
C'est toi, celle qui m'a sauvé lors de ce naufrage. »
Un sursaut d'espoir et de bonheur secoua la petite Ondine. Mais le prince ne la regardait pas. Il s'élança vers la princesse, venue les accueillir avec ses parents, et la prit dans ses bras. Il riait, sanglotait de joie. La petite Ondine dévisagea la princesse, qui enlaçait elle aussi le prince. C'était elle, la jeune fille qui s'était précipitée sur la plage quand les cloches avaient sonné. Le roi avait envoyé sa fille dans un couvent pour que les sœurs fassent son éducation. Et maintenant, elle allait se marier. Le jour même, le prince reprit la mer pour annoncer la nouvelle à ses parents et préparer les noces. Sur le navire, une fête aussi joyeuse que celle de son anniversaire, il y a bien longtemps, s'improvisa. La petite Ondine restait dans un coin, à regarder de loin le bonheur de celui pour qui elle avait abandonné sa famille, son foyer, sa voix, et avait souffert le martyr. Elle le regardait et, d'un geste, se leva. Il lui sembla, comme toujours, que des poignards lui lacéraient les jambes. Mais elle se mit à danser. Danser comme elle ne l'avait jamais fait, même au fond de la mer. Il lui semblait que ses jambes étaient en charpie, qu'elle sentait le sang couler, brûlant. Mais elle continua à danser. Elle dansa jusqu'à ce que la musique meure, que le dernier noble soit endormi, que depuis longtemps, son prince ait sombré dans un sommeil où ses rêves l'emmenaient près de sa princesse. La petite Ondine alla s'appuyer au bastingage. Une mer d'huile l'entourait. Bientôt, elle le savait, elle ne serait plus qu'écume sur l'onde. C'était son dernier jour. À l'horizon, l'aube allait bientôt pointer. Elle remarqua alors des formes à la surface. Ses sœurs étaient là, leurs cheveux tondus.
« Nous les avons donnés à la sorcière, en échange d'une chance de te sauver, »
lui expliquèrent-elles.
« Tiens, prends ce poignard. » Plante-le dans le cœur du prince. Dès que son sang coulera sur tes jambes, elles se joindront à nouveau en une queue, et tu pourras nous rejoindre. »
La petite Ondine prit le poignard. Tout le monde dormait sur le navire. Elle alla jusqu'à son prince. Il dormait sur le pont, dans un simple hamac. Elle regarda le front qu'elle avait baisé un jour, les lèvres qu'il avait embrassées il y a peu, sans jamais lui dire un mot d'amour. Sous sa chemise, sous sa peau, elle devinait le cœur qui ne battrait jamais pour elle. Elle avait tout sacrifié pour lui, l'avait sauvé de la noyade. Le poignard trembla dans sa main. Elle le jeta par-dessus bord. À l'horizon, le soleil se levait. Une dernière fois, elle embrassa le front de son prince, puis courut vers l'océan. Elle plongea vers ses sœurs, mais seule l'écume toucha l'eau. Mais ce n'était pas la fin. La petite Ondine se sentit flotter, mais pas dans l'eau. Elle flottait dans les airs, poussière radieuse dans la première lumière du jour. D'autres êtres flottaient autour d'elle.
Esprit des eaux, puis fille de la terre, viens avec nous, sois désormais un esprit de l'air. Nous n'avons pas d'âme, nous non plus, mais nous pouvons nous en forger une. Nous soufflons l'air frais là où la chaleur tue les hommes. Nous apportons le parfum des fleurs et de la guérison. Tu t'es élevé au-dessus de la douleur et de l'amertume. Tu as gagné le droit de nous rejoindre. Dispense les bonnes actions et un jour tu gagneras ton âme immortelle.
Sur la mer, l'écume se dissipait. Les sœurs de la petite Ondine ne pouvaient pas la pleurer. Mais si elles avaient pu, leur cadette aurait séché leurs larmes de son souffle, car elle montait désormais vers le ciel.
Thank you.
La créature du soir est le Céphildur, le cousin gallois du Kelpie. Il semble avoir ses petits chouchous, car dans le sud, on le décrit comme un esprit des routes, parfois un peu farceur, mais bienveillant, et presque semblable à Pégase. Dans le nord, en revanche, il arbore des yeux flamboyants et une sombre présence menaçante. Il guette les voyageurs depuis les lacs de montagne et les cascades, et peut en jaillir d'un bond pour piétiner les voyageurs solitaires. Parfois, il prend la forme d'un cheval égaré et se laisse monter. Mais dès que quelqu'un monte sur son dos, il s'élance dans le ciel, puis disparaît dans le brouillard, laissant son cavalier chuter vers sa mort. Beaucoup de personnes ont décortiqué la petite Ondine depuis sa publication il y a plus d'un siècle et demi. Une interprétation qui rencontre beaucoup de succès veut que l'Ondine soit une représentation d'Andersen, dévorée par un amour impossible envers le fils de son mécène, Edvard Collin. Edvard témoigne lui-même de cet amour qu'il ne pouvait rendre dans ses mémoires. Le thème de l'amour contrarié était très populaire à l'époque, et il ne faut peut-être pas surinterpréter le texte. Mais dans sa version originale, le souci de la petite Ondine pour son âme est extrêmement intense et récurrent. Si Andersen était réellement homosexuel au milieu du 19e siècle, il a certainement dû connaître les mêmes angoisses que celles qui agitent son personnage. Au final, personne ne pourra jamais prétendre connaître la vérité. Mais si le conte de la petite Ondine fascine depuis si longtemps, c'est que chacun doit y trouver une résonance. Et c'est surtout à ça que servent les histoires. C'est déjà tout pour ce soir. Conte des Soirs Perdus est une création de Lloyd et Biljana Blake. Si vous aimez l'émission, vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour plus d'histoires sur les créatures du folklore. N'oubliez pas de partager cet épisode autour de vous, c'est la meilleure manière d'aider le podcast et ça fait vraiment une énorme différence. Mais si vous voulez nous aider encore plus concrètement, le lien vers le Tipeee de l'émission est en description. Vous pourrez y découvrir des épisodes inédits ou y commander des histoires spécialement écrites pour vous. Ce sont vos dons qui aident Conte des Soirs Perdus à survivre, alors un immense merci aux tipeurs et aux tipeuses. La prochaine fois, on s'attaque à un monument de la culture indienne, sa plus grande et sa plus ancienne épopée, le Mahabharata.